Alors, bonjour à tous. Merci au comité 21 de m'avoir proposé d'animer cette table ronde, qui est un sujet qui nous intéresse particulièrement à décider ensemble, d'autant plus avec l'actualité de ces derniers mois en France, mais aussi en Europe. On le voit bien, on a commencé à en parler dans les mots d'ouverture. Les mouvements citoyens en faveur d'action climatique sont en train de prendre de l'ampleur et d'être de plus en plus présents. Ils peuvent prendre des formes un peu différentes. Alors ça peut être des recours en justice, on peut penser à l'affaire du siècle en France, mais aussi au People's Climate Case dont on va parler dans quelques instants. On a aussi des grèves des jeunes en Europe et on peut aussi penser au rôle que joue Greta Thunberg dans toute cette mobilisation et puis des marches citoyennes de façon un peu plus informelle. L'objectif de cette table ronde avec toutes ces interventions, ça va être un peu de dresser un panorama de ces différentes formes d'initiatives citoyennes et puis d'essayer de mieux les comprendre, de les décrire, de voir comment elles peuvent prendre forme, pourquoi, qu'est-ce qui pousse les citoyens à s'impliquer, à s'organiser, à agir eux-mêmes sans attendre des actions de la part des pouvoirs publics. Donc pour ça, on va avoir un ensemble de présentations. Tout d'abord, Eamon O'Hara, qui est le fondateur d'Ecolis, qui est un réseau européen des initiatives citoyennes écologiques, qui lui va nous dresser un peu un panorama de ces différentes formes d'engagement citoyen au niveau européen. Ensuite, on aura Gökçen Sayın, qui, elle, est coordinatrice de la communication autour donc du People's Climate Case, qui va nous présenter cette initiative et qui va nous expliquer ce en quoi elle consiste, qu'est-ce qui a poussé les familles à agir et à s'organiser ainsi. Claire Hénielle va revenir sur le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été un peu à la une de l'actualité récemment et elle va nous présenter cette démarche-là et cette démarche qui est partie en fait de la France et qui maintenant s'étend à d'autres pays et qui a pris une ampleur avec l'accumulation ces dernières semaines de nouveaux signataires. Arnaud Gossemont, qui est avocat associé et gérant du cabinet Négocement avocat, qui était aussi impliqué dans la commission Richard dont on a parlé précédemment avec d'ailleurs Loïc Blondiot, qui lui nous présentera un peu plutôt le cadre juridique, les grands contentieux qui peuvent exister au niveau européen et en France sur l'environnement. Et puis donc Loïc Blondieu, qui est professeur de sciences politiques, spécialiste de la participation citoyenne et qui, lui, nous apportera un regard à la fois de chercheur et puis aussi en lien avec l'actualité sur justement ces mécanismes d'implication et de mobilisation citoyenne. Alors, la parole est d'abord à Eamon O'Hara. Donc, vous êtes le fondateur d'Ecolis, qui est donc un réseau européen des initiatives citoyennes écologiques. Est-ce que vous pourriez nous dresser alors un peu un rapide panorama des différentes formes d'engagement citoyen pour les développements durables ? Quelles sont-elles ? Quelles formes peuvent-elles prendre ? Est-ce qu'on observe des différences d'engagement selon les pays ? Est-ce qu'on a des pays qui vont être plutôt sur de l'engagement spontané et un peu sporadique, alors que d'autres pays vont avoir tendance à avoir des engagements beaucoup plus organisés et par exemple qui vont plutôt passer par le recours en justice? Donc voilà, qu'est-ce que vous observez, vous, un peu à ce niveau-là?
Thank you, Marion.
Merci, Marion, plutôt, et bonjour à tous. Je tâcherai de ne pas trop me précipiter parce que si vous écoutez la version originale, l'accent irlandais peut poser problème à certains. Effectivement, je m'occupe d'un réseau européen qui s'appelle Ecolis et qui s'occupe essentiellement des initiatives menées au niveau des communautés, c'est-à-dire des simples citoyens dans des zones aussi bien rurales que urbaines en Europe, avec évidemment l'accent sur le développement durable, mais surtout les initiatives locales pour le climat. Alors, vous avez toutes sortes de diversités, d'initiatives plutôt, qui se sont multipliées au fil des années, notamment des 10 dernières années. Et ceci est lié à deux raisons. D'abord, il y a une véritable préoccupation par rapport à l'avenir en termes de, disons, de détraquement, de bouleversement climatique, les solutions énergétiques, qu'est-ce que l'on peut faire, quelle initiative, quel engagement, et puis une certaine frustration devant l'inaction gouvernementale sur le plan des politiques publiques. Rien ne semble se faire. En tout cas, les actions ne paraissent pas suffisantes, d'où la nécessité pour les citoyens de se reprendre en main et de mener leurs propres actions. Alors, il y a toutes sortes d'actions possibles. Cela dépend évidemment des intérêts particuliers des collectivités et surtout des possibilités, leurs préoccupations donc et les moyens qui sont les leurs, d'où cet engagement à la base se traduit par une forte diversité dans le type d'initiatives et celles que nous constatons et qui sont représentées dans notre propre réseau Écolise font intervenir donc des initiatives autour de l'énergie qui se sont beaucoup développées au cours des dernières années. Il y a environ 3000 initiatives énergétiques en Europe menées au niveau citoyen, plus appuyées dans certains pays, notamment le Danemark et l'Allemagne, où l'environnement législatif permet à ces initiatives citoyennes de se développer plus facilement. Il y a d'ailleurs un facteur de diversité qui est autorisé. Il faut voir que dans chaque pays, dans chaque région, vous avez des situations qui ne sont pas toujours les mêmes et certaines actions ne sont pas très faciles. Il y a également des initiatives citoyennes alimentaires. Là encore, elles seront plus caractérisées dans certains pays que dans d'autres. L'Italie, en particulier, présente une base d'initiatives alimentaires menées au niveau citoyen avec l'agriculture bio. Mais il y a un mouvement aussi alimentaire qui s'est développé au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe. Il y a également des projets de mobilité citoyenne, et là, on les constate dans de nombreux pays. Et puis, beaucoup d'activités autour du tri, du recyclage, des réparations, ce qu'on appelle la permaculture, qui est un nouveau développement, et ça, c'est un projet de nature alimentaire, mais avec, évidemment, une base locale. Alors, vous avez un éventail d'activités assez variées. Les incidences au niveau national varient beaucoup selon le contexte. On a vu notamment dans des pays, j'ai nommé le Danemark et l'Allemagne en particulier, où la législation va favoriser les initiatives locales et les nombres, les effectifs augmentent, le nombre d'initiatives augmente, les citoyens souhaitent pouvoir participer, surtout parce qu'ils ont la possibilité très concrète de le faire. Évidemment, il faut que les conditions le permettent, que le contexte soit favorable. Alors, dans notre réseau, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont représentées. Je crois qu'il y a 43 membres au sein des Colises. Donc, cela représente c'est tous les mouvements de transition, la permaculture, la transition écologique, énergétique. Et puis, il y a un réseau d'action pour le climat écossais. Il y a d'autres réseaux donc, qui se sont organisés au niveau national et qui rassemblent différentes initiatives locales. Donc, il y a également des associations et des organisations de recherche et puis un réseau qui s'occupe du développement durable. Donc, les dimensions sont toutes là. Elles sont représentées au sein de notre réseau. L'idée, c'est de les fédérer en quelque sorte afin de pouvoir, grâce à cette masse critique, avoir plus de visibilité pour tout ce qui touche, bien sûr, au climat. Mais il y a également une démarche éducative, développement des connaissances, partage des connaissances pour que d'abord on sache ce qui se passe sur le terrain, voir ce qui se passe pour faciliter le travail donc, des militants qui essayent de mener d'une action, puisque ces actions trouvent leur origine au niveau local, leur visibilité, la représentativité, évidemment, on peut l'imaginer, est relativement faible, mais grâce à cette mise en réseau, cette situation s'est améliorée grâce à ces réseaux, donc vous avez plus de visibilité apportée à cela. Et puis surtout, différentes voix peuvent finalement se faire entendre. Vous avez des chercheurs aussi bien que les militants. Et tout cela remonte au niveau européen et c'est quand même une grande satisfaction pour ces mouvements citoyens. Alors, il y a des avantages écologiques évidents qui ont été établis très rapidement, notamment pour le mouvement des éco-villages. Vous connaissez peut-être, il y a une véritable une convergence entre les mouvements donc d'éco-village, pardon. Vous avez l'indice une planète avec une empreinte carbone de ces villages, donc éco-villages qui vont dans le sens de cette empreinte carbone visée. Et quelquefois, on est déjà arrivé en dessous. Donc, des résultats sont très tangibles. Il y a beaucoup à apprendre dans ces transitions écologiques de la part de ces communautés, de ces collectivités qui, très localement, ont pris leur destin en main et orienté leur avenir écologique dans le bon sens. Il y a des avantages également, des bénéfices sur le plan économique, puisque, et notamment dans les zones rurales, puisque vous avez des, justement dans les zones rurales où les opportunités économiques sont plus faibles, le fait d'avoir ce mouvement en place se traduit très rapidement par une activité économique dans un cercle vertueux. C'est une transition vers un changement de style de vie, vraiment une nouvelle façon de travailler, créer un nouveau contexte, de nouvelles attitudes, nouveaux comportements qui se traduit par une nouvelle façon de faire l'économie, hein, de tracer la transition économique et pas simplement écologique, puisqu'effectivement, si nous voulons réussir à atteindre ces objectifs en matière d'émissions de gaz, là, cela se traduit par des corollaires économiques. Alors, évidemment, au niveau local, il y a également une certaine résistance. Et puis, le travail se fait sur une base de bénévolat, de volontariat. Alors, évidemment, s'il n'y a pas d'autre soutien, c'est pas évident. Il y a également des obstacles bureaucratiques. Le fardeau administratif ralentit souvent les ardeurs et les initiatives individuelles. Parce qu'évidemment, il faut savoir se gérer, un peu naviguer à travers quelquefois ces dédales administratifs, toute la paperasserie et les autres tracasseries administratives. L'accès également à l'espace collectif, le financement, évidemment, tout cela fait que, bon, lorsqu'on s'appuie uniquement sur le travail des bénévoles ou des volontaires, ça n'est pas toujours facile. Alors, il y a quand même d'autres types d'obstacles. Il y a d'abord la promulgation de législation qui favorise ce genre de mouvement. Évidemment, dans les pays où cette législation est en place, cela permet de libérer des énergies et de favoriser ce genre d'initiative. Il faut également un soutien, même s'il n'est pas sous forme réglementaire ou législative. Cela n'empêche pas nécessairement les mouvements locaux, les initiatives citoyennes, de se développer. Quelquefois, elle bénéficie d'un soutien, disons, implicite, grâce à un travail de sensibilisation, enfin, ce qu'on appelle le soft support, qui donne un certain accès à l'action, parce que vous avez des initiatives bénévoles qui, évidemment, sont en concurrence contre des organisations professionnelles, les milieux commerciaux, les milieux d'affaires qui ont beaucoup plus d'expérience, qui savent gérer, naviguer dans ce, comme je vous l'ai dit, ce dédale administratif et réglementaire. Et puis, à plus long terme, et dans un esprit, si vous voulez, de travail, donc de facilitation, il y a plusieurs choses qui ont été envisagées. Enfin, d'abord, bon, vous avez, lorsqu'on essaie des mouvements en faveur d'un revenu minimum, réduction du temps de travail, c'est le genre de choses qui vont dans le même sens, puisque l'idée, c'est que chacun peut être associé à la chose publique, à la vie civique. Et ce mouvement citoyen, cette sensibilité citoyenne est en soi une bonne chose, mais encore faut-il avoir le temps de le faire. Et bon, effectivement, les choses sont dans le même sens. Si les gens ont un peu plus de temps libre, un minimum de revenus, on peut espérer qu'ils seront ensuite mieux à même, en dehors de leur travail, de leurs obligations professionnelles, de mener une action citoyenne. Voilà. Alors, on aura un rapport qui sera publié au mois de mai, un rapport d'étape sur l'état des initiatives citoyennes et locales pour le climat en Europe. Donc, il y a un travail de recherche et de sondage, en fait, qui est mené depuis 2 ans. Ce sera le premier résultat de cette étude de la situation, un état des lieux, en quelque sorte, qui vous sera donc présenté au mois de mai, le 1er mai, en fait. Et voilà à quoi elle va ressembler. Mais si vous allez sur notre site web, vous verrez sur ecolise.eu, vous aurez tous ces éléments. Je vous remercie de votre attention.
chaque matière pour voir un peu ce que pouvait être justement donc toutes ces formes d'engagement citoyen. Alors vous, Gökçen Sayın, vous êtes la coordinatrice donc de la communication du People's Climate Case. Pourriez-vous juste nous expliquer d'abord ce que c'est en fait, en quoi ça consiste, et puis après nous dire un peu ce que finalement les familles reprochent aux institutions européennes, et puis après on verra aussi, comme vous êtes dans le réseau Action Climat Europe, plus globalement ce que vous observez au niveau européen, dans les autres pays, les tendances qui sont un peu à l'œuvre en matière de mobilisation citoyenne.
Eh bien, je vous remercie de nous donner ainsi l'occasion de vous faire part de ces familles qui décident de mener une action en justice contre l'Union européenne ou en tout cas les pouvoirs publics. Et ceci se fait un peu partout en Europe, mais vous avez différentes familles qui ont décidé de s'assembler, de s'unir pour mener une action en justice contre la Commission, enfin contre l'Union européenne, parce qu'ils estiment que leurs droits fondamentaux ne sont pas suffisamment protégés par ce qui se fait au niveau du climat. Alors, vous voyez une simple famille ordinaire qui tient tête à l'Union européenne. Alors, comment se passe-t-il? Eh bien, il faut bien comprendre d'abord le contexte. C'est un contexte existentiel extraordinaire, unique en son genre, sans précédent, où le changement climatique a des incidences pas simplement écologiques, mais économiques. Elle touche nos vies au plus profond. Vous avez des familles qui sont déracinées, qui doivent déménager, sont délocalisées, changer de métier. Et un rapport a mesuré le coût pour l'Europe du changement climatique. Et vous avez des fatalités qui sont particulièrement élevées entre 1980 et 2017. Vous avez quelque 33 000 décès imputables au changement climatique. C'est extraordinaire. Donc, ça a une incidence très concrète sur nos existences. Vous avez des gens qui sont littéralement touchés par le climat. Et ce qui est dit, c'est qu'à moins d'accélérer cette action pour le climat, ces effets négatifs, ces effets néfastes vont se multiplier. Et on ne peut pas simplement se contenter d'incantations en espérant que le problème disparaîtra lui-même. Donc cette crise climatique nécessite une réponse qui soit à la hauteur de cette crise, mais on en est encore loin. En 2015, tous les gouvernements, les chefs d'État et de gouvernement ont signé l'accord de Paris, de la COP21, mais ce qui a été décidé, c'est de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Or, on en est déjà à 1,1. Déjà en octobre, le GIEC nous a dit que si l'on veut être sérieux par rapport au changement climatique, on n'a que 12 ans pour rectifier la donne, ce qui veut dire que l'urgence est immédiate. Après, c'est un point de non-retour et je crois que c'est le message le plus urgent qu'on ait pu entendre de la part du GIEC. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, en 2015, donc les parties prenantes ou les signataires de l'accord de Paris ont défini des objectifs pour 2030. Donc ça, c'est effectivement à très court terme. C'est le plan d'action à court terme pour le climat. Et ce qui avait été décidé, c'est que d'ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites d'au moins 40%. En 2015, l'accord de Paris donc a été signé. En 2018, le GIEC nous dit que quand l'Union européenne a défini ses propres projets, donc au niveau européen, la base, la ligne de référence était de 2 degrés. Et en disant que les efforts se pourraient poursuivre pour essayer de limiter la hausse de température à 1,5 degré. Et en fait, l'Union européenne n'a pas révisé ses objectifs en termes de température. Et maintenant, pour 2050, donc à moyen terme, on voit que l'Union européenne n'a toujours pas mis en place un système pour réviser ses objectifs annoncés en 2015. Alors, les scientifiques nous disent, est-ce que vous êtes à l'écoute, là? Il nous reste 12 ans et vous n'allez jamais atteindre les objectifs annoncés. Et vous avez une vingtaine de familles, donc, dans différents pays d'Europe, et d'ailleurs à l'extérieur de l'Europe aussi, mais au Portugal, en Roumanie, en France, en Allemagne, en Italie, mais également Fidji et au Kenya. Ces familles, donc, avec la communauté Sami indigène en Suède, qui vit donc au nord de l'Europe. C'est vraiment dans la zone toute septentrionale qui jouxte la Russie, près de la Laponie là-bas. Enfin, vous avez des gens qui vivent autour du cercle polaire et qui ont vu leurs premiers incendies, les premiers incendies de forêt. C'est du jamais vu. Donc toutes ces familles se sont réunies pour dire, voilà, si nous voulons que l'Union européenne révise et durcit ses objectifs de climat, il y a finalement trois pouvoirs dans le système. Le pouvoir législatif, hein, vous avez qui définit donc la législation. Et on n'a pas vu de mise à jour de la législation pour s'aligner sur les accords de Paris. Deuxièmement, le pouvoir exécutif qui est, lui, chargé d'exercer l'autorité et de veiller à la mise en œuvre et de la législation. Et là, rien n'a été fait non plus par l'exécutif. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que simple famille? C'est de se tourner vers le troisième pouvoir, qui est, bien entendu, le pouvoir judiciaire. Et donc, aller en justice, mener une action en justice, poursuivre en justice les gouvernements pour veiller à ce que les États et l'Union européenne en général protègent, préservent leurs droits fondamentaux, ce qu'on appelle les droits humains, au titre d'ailleurs tel que prévu déjà, au titre de la législation existante. Donc, les droits de l'homme sont défendus dans une enceinte européenne. Voilà. Alors, quelles sont ces familles qui sont impactées, pour ainsi dire, par le changement climatique? J'en dirai deux, quelques exemples. Armando était un petit propriétaire terrien au Portugal qui a perdu 95% de ses terres à travers des incendies. Et maintenant, il s'est reconverti dans la librairie. Vous avez Salma Lindhöre, qui est suédoise, qui, elle, est d'une tribu indigène, la tribu donc des Salmi, s'intéressait à l'élevage et à la chasse du renne, et toute la connaissance de l'écosystème est indispensable pour pouvoir élever des rennes, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein. C'est transmis de génération en génération, ainsi que toute la connaissance de l'écosystème, de l'écologie, de la nature. C'est un savoir qui est transmis d'une génération à l'autre. Et là, pour la première fois, avec ces incendies de forêt à Lokmok, donc tout dans le nord de la Suède, les ancêtres ne connaissaient pas ce phénomène et ils ne sont pas en mesure de conseiller, d'apporter le moindre conseil aux nouvelles générations qui doivent se débrouiller avec un phénomène nouveau que les anciens ne connaissaient pas. Et cela, évidemment, met ces communautés sous pression, enfin cette génération de cette communauté Salmi, avec près de 33% des effectifs qui sont concernés. Enfin, vous avez un tiers de la communauté qui est engagée dans cette action, parce qu'évidemment, ils sont touchés au premier plan. C'est assez remarquable. Mais quand j'ai interrogé ces gens, j'ai entendu, c'est qu'à dire, nous apprenons qu'il y a il y a des suicides permanents dans la communauté. Il y avait Maurice qui habite dans la Drôme, lui, il est en France, et qui, lui, s'occupait de production de lavande. Depuis six générations, ils font pousser de la lavande dans la Drôme, et en six ans, il a perdu 44% de son revenu. On voit d'ailleurs le lien, la corrélation immédiate entre la hausse de la température, la baisse des précipitations et les revenus de notre ami de la Drôme, on voit que le rapport de cause à effet est immédiat. C'est son fils maintenant qui a repris l'exploitation et c'est la première génération qui n'est pas en mesure de produire des revenus suffisants pour la famille. Il a fallu qu'il démarre une autre activité pour joindre les bouts. Il y a une autre famille allemande cette fois-ci qui vit dans une petite île dans le nord de l'Allemagne et dans la mer du Nord, dans le nord de l'Allemagne, pardon. Et c'est une île qui est protégée par des dunes et des bancs de sable avec un écosystème à lui dans cette île. Ces dunes, ces bancs de sable ne résistent plus à l'augmentation du niveau de la mer. Et donc tout ce qui a été construit sur cette île depuis une vingtaine d'années est est menacé de disparaître. Il y a un hôtel, un restaurant, enfin tout a été construit ex nihilo depuis 20 ans. Et là, tout cela va disparaître. Alors ces familles ne demandent pas d'argent, d'indemnisation. Elles veulent simplement que l'Union mette en œuvre, respecte ses engagements. C'est la seule façon de protéger ces familles. Il y a un autre plaignant, Alfredo, Portugal, qui a essayé de créer un projet d'adaptation avec des fonds européens d'ailleurs. Et 2 ans après la mise en place de ce projet, eh bien, son exploitation agricole est arrivée au stade où l'adaptation n'est plus possible. Donc on met tout ce qu'on peut et ça ne marche pas. Comme quoi les mesures ne suffisent pas et les actions pour le climat à court terme doivent être revues. Alors sur le plan juridique, quels sont les moyens avancés ? Ni que dans le cadre du traité de l'Union européenne et la charte des Nations unies, de la charte de l'Union européenne pour les droits de l'homme, il y a l'obligation de veiller aux intérêts des citoyens européens et notamment de ne pas nuire aux citoyens européens et de protéger leurs droits. Donc on retourne à la base, au fondement de l'Europe, où on demande, où on a cette puissance européenne qui doit protéger ses citoyens. C'est un petit peu le béaba de la chose. Et lorsque on permet à ce niveau d'émission de gaz d'ici à 2020, en fait, on est en train de saper les droits fondamentaux des citoyens européens. Depuis le lancement de cette action en justice, alors, il y a évidemment des actions en justice, mais ce qui se fait en dehors des tribunaux est intéressant. Vous avez le Parlement et le Conseil européen qui sont les défendeurs et ils ont invité les plaignants à prendre la parole et plusieurs parlementaires européens à la suite des auditions de ces plaignants ont publié des rapports, notamment dans la presse bruxelloise, pour dire effectivement, ces gens ont raison. Nos objectifs à court terme doivent être révisés, doivent être durcis. Et il y a eu 2 résolutions votées par le Parlement européen au terme de laquelle l'Union européenne doit passer de 40 à 55% de ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et il faut savoir que ces familles, il y a une action très publicitaire, à la limite, de mener une action en justice contre les gouvernements. Et bien entendu, c'est la seule façon de s'assurer que c'est la seule façon de protéger les citoyens européens. Alors, je prendrai juste une minute pour conclure, parce que c'est quand même important. Vous avez ces actions en justice. Ce n'est pas que des familles à propos. En Europe, vous avez, dans 10 pays, États membres, des simples citoyens qui ont des initiatives. Vous connaissez, bien entendu, l'affaire du siècle, cette grande pétition. Enfin, vous avez des gens qui ressentent l'urgence du changement climatique et qui font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est dans leurs moyens. Alors là, je vous rejoins. C'est vrai qu'il y a une véritable frustration citoyenne, le fait que le problème n'est pas traité avec l'urgence qu'il mérite. Et vous avez des citoyens, là, vous avez même des mouvements étudiants qui disent que lorsqu'ils sortiront de leurs études. Ils ne travailleront que des entreprises qui sont sobres sur le plan climatique, pas celles qui utilisent des combustibles fossiles. Vous avez de plus en plus, donc vous avez des étudiants, des mouvements, et de plus en plus de gouvernements qui sont traînés en justice en raison de leur inaction. Et donc, c'est les citoyens qui essaient de mobiliser, d'activer des leviers différents, tels qu'ils peuvent exister en Europe grâce aux institutions démocratiques, pour pouvoir faire avancer leurs objectifs et de faire en sorte que les incitations à la manœuvre soient en mesure de faire ce qu'il faut pour traiter le problème climatique. Merci.
C'est parfait, puisqu'on parlait des étudiants. Alors, du coup, Claire Hignel, est-ce que vous pourriez déjà, d'une part, nous présenter ce manifeste étudiant pour un réveil écologique, nous expliquer un peu en quoi il consistait, comment est née cette démarche, quels sont vos objectifs, et aussi nous dire un peu, est-ce que ça ne serait pas finalement une nouvelle façon de lutter en essayant de changer le système de l'intérieur, enfin, du monde économique, qui est finalement un acteur extrêmement... puissant dans cette lutte contre le changement climatique.
Bonjour. Alors d'abord, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est avant tout un texte qui est né d'un constat qui a été fait individuellement par plusieurs étudiants, celui à la fois donc de faits scientifiques qui sont aujourd'hui incontestables, et puis de l'autre côté, une situation qui ne semble pas vraiment prendre compte de ces faits scientifiques. Et donc cette incohérence entre ces deux éléments-là, notamment par exemple pour nous, de notre point de vue d'étudiants, au niveau des perspectives d'emploi. En fait, on se retrouvait donc sur tout ce qu'on pouvait apprendre à l'école, mais également dans nos démarches de recherche personnelle, qui se retrouvait totalement incohérent et hermétique avec ensuite l'état des emplois qu'on pouvait nous proposer. Et donc, on a écrit ce texte pour mettre des mots sur cette recherche de cohérence. Donc, ça a avant tout d'abord été un texte qui était plutôt dirigé vers les étudiants, pour du coup partager et rendre collectif ce constat qu'on était beaucoup à faire individuellement. Et donc on a d'abord cherché à aller convaincre au-delà des sphères des étudiants qui pouvaient déjà être engagés sur l'environnement ou avoir des études qui étaient spécifiquement autour de ces sujets-là. Et donc on a créé un site internet et donc un manifeste que les étudiants pouvaient signer, et donc avec des ressources pour leur permettre de s'informer plus sur le changement climatique et sur comment, à l'échelle individuelle, ils pouvaient être capables de s'engager. Donc ce manifeste, aujourd'hui, il a récolté plus de 30 000 signatures sur 400 établissements. Donc dans 11 pays différents, donc on a quand même 27 000 signatures françaises, mais on est aussi beaucoup au Royaume-Uni, en Suède, en Belgique et en Allemagne. Donc c'est un constat qui est non seulement partagé par beaucoup d'étudiants, mais beaucoup d'étudiants également en Europe. Et donc ce succès, il nous a ensuite amené à vouloir rechercher comment essayer de concrétiser un peu plus ce constat. Et donc on s'est interrogé sur les leviers dont on disposait nous en tant qu'étudiants. Avec donc en fait qu'on a développé sur deux volets, puisqu'on avait à la fois un pied dans l'enseignement et dans le domaine éducatif, mais également au niveau de l'emploi, puisque évidemment nous étudions dans une perspective d'avoir un travail. Donc on a décidé, aujourd'hui le constat qu'on fait au niveau de l'enseignement, c'est que beaucoup, à moins d'être engagés dans un parcours spécialisé, en fait on n'est pas du tout amené à apprendre et à vraiment véritablement se renseigner sur l'état actuel de la crise écologique et environnementale. Donc aujourd'hui, on essaye de plaider pour justement que tous les élèves dans le supérieur aient accès d'abord à un savoir commun autour des faits scientifiques du réchauffement climatique et de la crise écologique, mais également des faits qui soient plus opératoires et qui soient plus spécifiques au type d'emploi auquel on se destine et qui du coup permettent de mettre en application tout ce savoir-là donc, une fois qu'on sera rentré sur le marché du travail. Donc ça s'opère sur deux niveaux. Un niveau qui est un peu macro, puisqu'en fait, on a commencé à rentrer en contact et en discussion avec des institutions. Donc on a rencontré le ministère de la Transition écologique et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avec qui nous sommes aujourd'hui en dialogue pour à la fois porter cette demande de la part des étudiants, puis ensuite essayer de voir comment est-ce que ces demandes peuvent se réaliser par des réalisations un peu plus concrètes. On agit également au niveau plus micro, donc par établissement, puisqu'il y a quelques semaines, on a mis en ligne un kit donc pour aider les étudiants qui le souhaitent à entamer des démarches et un dialogue avec leur administration pour inclure davantage les problématiques liées à l'environnement et au réchauffement climatique dans leur programme. Donc c'est quelque chose qui centralise des retours d'expérience, des conseils, puisque c'est déjà des démarches qui ont été entamées dans plusieurs établissements, comme à Polytechnique, à Sciences Po, par exemple. Et donc c'est comment aider les étudiants pour que justement ces problématiques-là soient mises à l'agenda dans leurs établissements. Alors notre autre domaine qu'on s'est fixé, c'est celui de l'emploi, puisqu'en fait, en commençant à discuter, on a rencontré plusieurs entreprises, on s'est rendu compte que c'était un levier, un signal faible important, le fait que donc, des étudiants soient prêts à mettre au premier plan dans leur recherche de l'emploi le fait que l'entreprise prenne ou pas en compte les enjeux du réchauffement climatique dans leur modèle de rentabilité. Et donc pour cela, on est en ce moment en train d'essayer de réfléchir à des critères, des clés que l'on pourrait fournir aux étudiants pour les guider dans leur recherche d'un emploi et pour du coup les aider à faire la distinction entre une entreprise ou une structure qui prend véritablement en compte les enjeux climatiques et écologiques ou pas, et du coup sélectionner leur emploi en fonction de ça. Et du coup, ça nous permet également d'envoyer un message aux entreprises et pour leur donner une indication sur les attentes qui sont celles de plus en plus d'étudiants. Excusez-moi. Ah oui, voilà, c'est la dernière question. Oui, c'est le...
Oui, non, mais les critères, les critères pour aider les étudiants à rechercher un emploi ou en tout cas à se positionner, vous les définissez comment ?
Alors, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore en discussion, donc c'est une bonne question. Donc on n'a pas évidemment prétention de donner des critères qui sont extrêmement précis, parce que d'une part, on estime que ce n'est pas forcément à nous de le faire, et d'autre part, on est beaucoup à être plutôt autodidacte, donc on n'a pas forcément les connaissances. Par ailleurs, il existe déjà des labels qui permettent de le faire. Donc les critères qu'on pense donner, qui sont pour l'instant encore, en discussion, c'est des critères assez généraux, mais qui n'empêchent, sont quand même exigeants et peuvent quand même servir d'un appui. Ça peut être, par exemple, être en cohérence avec les enjeux qui ont été fixés par le GIEC, prendre en compte la finitude des ressources dans son modèle, dans son modèle de... dans son modèle. Ça peut être incitation ou non à la surconsommation et la défense ou non d'un modèle de consommation qui soit plus responsable. Donc voilà, c'est des critères qui peuvent être assez larges et donc qui seront plus ou moins pertinents en fonction du secteur de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'on ne se donne pas forcément l'ambition de donner des directives extrêmement précises parce qu'on considère que ce n'est pas forcément à nous de le faire et qu'en plus, on n'en a pas forcément la compétence. Et donc, sur la dernière question qui était la mobilisation intégrée, alors c'est vrai qu'on s'est donné une position qui est du coup différente que celle de rechercher une mobilisation. On essaie d'être complémentaire justement avec ce mode de mobilisation-là. Alors, du coup, on essaye de discuter avec l'ensemble des acteurs. Donc, effectivement, on pourrait à ce niveau-là parler d'une mobilisation qui soit intégrée. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir un niveau d'exigence qui on l'espère, est suffisant. Par exemple, pour revenir sur le sujet des entreprises, on se pose quand même, la question de savoir si, par exemple, un modèle de rentabilité est compatible ou pas avec un monde neutre en carbone et respectueux de l'environnement, c'est quand même une question qu'on va se poser et qui va du coup nous amener à avoir une ambition et un engagement qui pourrait nous amener du coup à refuser un modèle de rentabilité ou en tout cas à demander à ce qu'il évolue de manière suffisante. Donc oui, effectivement, c'est une mobilisation qu'on pourrait considérer comme plus intégrée. Maintenant, le niveau d'exigence et de demande d'une véritable transformation reste le même.
Parfait, merci beaucoup.
Alors du coup, maintenant, la parole est à Arnaud Gossemon. Donc, on l'a dit, vous êtes avocat, vous êtes notamment spécialiste du droit de l'environnement. Alors, vous avez écrit un article, enfin, vous avez fait une interview très récemment sur le grand débat respecte-t-il le droit de l'environnement, et notamment dans sa dimension participation du public, qui est un sujet du coup coup de très grande actualité. Et du coup, est-ce que vous pourriez revenir déjà en préambule très rapidement sur cette notion ? Est-ce que finalement le grand débat respecte le droit de l'environnement dans cette dimension participation du public ? Et puis après, peut-être nous présenter les grands contentieux qui existent en France sur l'environnement, donc l'affaire du siècle et puis Grande Synthe, et nous expliquer en quoi la participation des citoyens à la décision environnementale est nécessaire.
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce beau forum, avec une pensée spéciale pour Bettina Laville, que je remercie de son invitation. Et également, en introduction, je voulais féliciter l'intervenante précédente, Madame Aignel, pour cette mobilisation. Juste pour l'anecdote, certes, ça date, c'était il y a 15 ans, mais lorsque j'ai moi-même fait mes études de droit à la faculté de droit, en 8 ans, je n'ai jamais suivi un seul enseignement en droit de l'environnement, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Et même dans les autres enseignements de droit qui ont pu m'être dispensés, je n'ai jamais entendu parler de changement climatique, de biodiversité, de déchets ou de quoi que ce soit. Heureusement, les choses changent, mais tellement lentement. Et je vois encore des candidats à l'agrégation me dire que malheureusement, ça ne fait pas partie des matières nobles, le droit de l'environnement, et qu'encore aujourd'hui, il vaut mieux s'intéresser à d'autres matières, pourtant, à mon avis, parfois un peu moins urgentes qu'à celle-ci, qui me paraît, elle, absolument fondamentale. Donc que des étudiants, notamment de grande école, aujourd'hui, se saisissent de cette question, et voire même menacent un peu les entreprises qui souhaitent avoir les meilleurs profils, en leur disant, voilà, il faut vraiment avoir un engagement concret pour l'environnement, sinon vous manquerez les meilleurs profils. Je trouve que c'est une initiative très concrète et très intéressante. Je ferme cette introduction. Effectivement, je suis spécialisé en droit de l'environnement, et lorsqu'on pense à la citoyenneté écologique, on pense à un principe structurant du droit de l'environnement, à un principe qui s'appelle le principe de participation du public. Et ce principe de participation du public provient du droit international, essentiellement de la déclaration de Rio de 1992. Paradoxalement, c'est un principe qui intéresse beaucoup le droit de l'Union européenne et qui n'est pas inscrit dans le traité. C'est un mystère, mais effectivement, dans le traité, vous trouvez le principe de précaution, le principe du pollueur-payeur. Vous ne trouvez pas le principe de participation du public, ni aucun d'ailleurs principe qui permettrait d'orienter, d'organiser la participation du public dans l'élaboration des choix qui intéressent l'environnement. C'est une carence. À l'inverse, dans les droits nationaux, on le retrouve quasi systématiquement, y compris dans les constitutions des États membres, notamment dans la Constitution française, puisque le principe de participation du public est inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement adoptée en 2005. Ce principe de participation du public a fait florès. Il a donné lieu à de très nombreux textes. Le livre premier du Code de l'environnement lui est quasi exclusivement consacré. Et le paradoxe, c'est que s'il y a beaucoup de textes sur la participation du public, s'il y a beaucoup de procédures de participation du public au sens large, que ça va de l'information à la consultation, à la concertation, à la participation, je ne peux pas tout distinguer, mais j'ai un spécialiste à mes côtés qui certainement pourrait le faire. Le paradoxe, c'est qu'il est mal appliqué, ce principe de participation, très très mal appliqué. Moi, j'ai un cabinet qui défend des entreprises qui me disent « Oh là là, le principe de participation, que de temps perdu, que d'argent, encore une enquête publique, un débat public, etc. etc. » C'est la réalité. Ça coûte de l'argent. Il y a même des entreprises qui vont renoncer à des projets parce qu'effectivement, elles n'ont pas les moyens ou l'envie d'investir dans cette ingénierie démocratique. Mais c'est vrai qu'en même temps, si je prends leur défense, ce quantitatif n'équivaut pas au qualitatif, et malheureusement, ces procédures ne permettent pas toujours de se parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive aux juges, avec des limites dans la demande qui est faite aux juges de régler des problèmes qui auraient dû être réglés par la voie du dialogue environnemental. Alors, si je reviens juste à ce principe de participation du public, je dirais qu'il a plusieurs déclinaisons. Il a évidemment des déclinaisons toutes petites, où on va juste informer le public sur un projet, ce qui est d'ailleurs une tendance dans notre droit actuel, puisqu'en matière, par exemple, d'environnement industriel, le gouvernement, de plus en plus, fait passer des projets dans le champ de la simple mise à disposition d'une information du public et a tendance à réduire le périmètre de l'enquête publique. ce qui est un souci et ce qui doit effectivement entraîner, je pense, une réflexion, un débat sur cette quasi-disparition, dans certains cas, de l'enquête publique, qui était pourtant l'instrument historique en France depuis les années 80 et la loi du Guette-Bouchardeau, qui était l'instrument de participation du public en matière environnementale. Donc on voit qu'effectivement, il y a à la fois une mise en avant de la participation du public par l'État, mais dans les faits et en droit, une réduction de la voilure. Et puis, au niveau, on va dire, plus global, pour avoir participé en tant que porte-parole d'une ONG au Grenelle de l'environnement, je suis évidemment un peu attristé de voir aussi quelles ont été les suites de ce Grenelle de l'environnement, et notamment la place que l'État consacre au corps intermédiaire, et notamment au corps intermédiaire spécialisé dans la question de l'écologie, qu'il s'agisse d'organiser leur financement, leur transparence, leur action, leur agrément. On pourrait parler des problèmes actuellement que rencontrent un certain nombre d'associations et d'ONG dans l'accès à l'agrément. Et il y a plusieurs types d'agréments, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et effectivement, vous m'avez interrogé sur ce sujet. J'ai écrit récemment une petite tribune qui n'a d'autre fonction que d'ouvrir un débat. Elle est très courte, sur le grand débat national. Le grand débat national, vous le savez, avait pour but d'aboutir notamment à des propositions, des contributions, devrais-je dire, sur la transition écologique. C'était l'un des quatre thèmes du débat. Dès lors, pour aboutir à ces contributions, l'État avait eu la bonne idée d'associer la Commission nationale du débat public. Et c'était évidemment un gage de sérieux, d'autorité, notamment grâce à la personnalité de sa présidente, Chantal Jouanneau, dont on ne peut pas contester la compétence et le sérieux. Et donc, on pouvait effectivement s'attendre à ce que l'État français respecte les exigences du principe de participation du public dans l'organisation de ce grand débat national. Et donc, j'ai voulu confronter ces exigences telles qu'elles sont définies dans plusieurs textes, notamment la Convention d'Aarhus de 1998, signée dans le cadre du Conseil de l'Europe, ou dans la jurisprudence française. Le juge administratif, surtout français, s'est prononcé à de très nombreuses reprises sur les exigences du principe de participation du public. Le fait de donner une information au public, le fait de, par avance, préciser quelle sera la méthode suivie, le fait de distinguer les rôles entre le maître d'ouvrage ou le porteur, le demandeur de cette participation, le rôle du garant, le rôle également du public et des différents types de public, entre les corps intermédiaires, les citoyens, les élus. Et point par point, malheureusement, ce n'est que mon opinion, et encore une fois, le débat est ouvert, j'ai le sentiment que ce grand débat national ne respecte pas les exigences du principe de participation du public. Et certes, il a mal commencé avec des attaques quand même assez dures, y compris de membres du gouvernement envers la présidente d'une autorité administrative indépendante. Qu'est-ce que ça aurait été si un ministre avait critiqué, comme cela a été fait, la présidente de l'autorité de la concurrence ou de l'autorité des marchés financiers? Je pense que ça ne serait pas passé. Mais là, effectivement, je dois dire que j'ai été particulièrement surpris, sinon choqué, d'un certain nombre de réflexions qui ont été faites à l'encontre de cette personne, dont, encore une fois, la compétence et le sérieux ne peuvent pas être discutés. Et derrière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une organisation qui, objectivement, ne correspond pas à ces exigences. Prenons plusieurs exemples. Le questionnaire, qui n'était pourtant pas recommandé, et encore une fois, Loïc Blondiot est bien mieux placé que moi pour en parler. Rappelez-vous la première question, où on a quand même demandé au public en 2019 de hiérarchiser les préoccupations environnementales. Il y avait une question qui était, parmi ces sujets, quels sont ceux pour lesquels il faut accorder la priorité? C'est les changements climatiques, c'est la biodiversité. Alors qu'évidemment, aujourd'hui, quel écologiste ne sait pas, même s'il ne s'intéresse pas beaucoup à l'écologie, que tout ça est un tout et qu'on doit traiter de l'ensemble de ces sujets dans un même mouvement. Il n'est pas question de dire on va mettre de l'argent sur le changement climatique, mais pas sur la biodiversité. Bref, que ce soit le questionnaire fermé, que ce soit aussi des garants qui étaient en réalité des observateurs, je le vois dans leurs déclarations même à la presse, que ce soit ensuite dans les méthodes de dépouillement des contributions. Je lisais encore un article sur France Info ce matin où on voit qu'effectivement, il y a des problèmes quand même assez graves de traitement de ces contributions. Des copier-coller, 54% qui ont été dépouillés simplement avant restitution. Enfin bref, s'il y avait une autorité indépendante en charge du contrôle de ce type d'opérations d'analyse et de restitution, on ne serait pas, je pense, uniquement contraint par un calendrier politique et la nécessité d'aller vite pour permettre des déclarations de la part de l'exécutif. Bref, en quelques mots, j'ai été un peu sévère effectivement avec ce grand débat national me paraît poser un problème d'ailleurs de légalité, puisqu'il y a des décisions qui vont être prises à la suite de ce grand débat national, et ces décisions doivent, c'est la loi notamment de 2012, faire l'objet d'une participation du public, ce qui veut dire que l'État, dans certains cas, va être obligé de réorganiser de nouveau une procédure de participation du public à la suite du grand débat sur des choix qui pourtant auraient été actés lors du grand débat. Ça va être un petit peu compliqué. Et effectivement, et je suis certainement trop long, qu'est-ce qu'on constate ? Des citoyens qui, parce que le dialogue ne se fait pas, quand on ne dialogue plus, eh ben on va voir un juge. C'est comme en matière de droit de la famille, lorsqu'on divorce, eh ben quand on ne se parle plus, on va voir un juge. Donc c'est toujours un constat d'échec d'aller voir un juge. Ça ne peut pas dire que ce soit un progrès de demander à un juge d'enjoindre à l'État de prendre des décisions courageuses en matière de lutte contre le changement climatique. Le recours est très intéressant. Par la question qu'il pose, par cette pétition qui a quand même recueilli plus de 2 millions de signatures, ce qui prouve une véritable mobilisation, et de ce point de vue-là, cette démarche est exemplaire. Mais c'est vrai que si on prend du recul, et en tant que simplement que juriste, on ne peut pas se dire qu'on va réorienter notre démocratie et ses carences au prétoire. Et pourtant, je suis avocat. Mais je pense de ce fait-là, et ce n'est qu'une opinion, être bien placé pour penser qu'effectivement, notre démocratie doit évoluer, la manière de faire des choix doit évoluer, non pas par du quantitatif, par du qualitatif, notamment en donnant une place au corps intermédiaire, ce qu'on avait essayé de faire lors du Grenelle, et que le juge ne pourra pas répondre aux formidables espoirs qui sont placés en lui. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des contentieux de plusieurs sortes, européens, lorsque la Commission européenne est saisie de recours en manquement, plainte en manquement contre les États membres, ce qui est le cas régulièrement, européens, État par État, on a vu des familles effectivement saisir la Cour de justice, ou le juge administratif, comme le tribunal administratif de Paris, qui a été saisi d'un recours en responsabilité de l'État pour carence fautive dans l'application de l'ensemble des législations relatives au changement climatique. Donc on voit que la plupart des juges sont saisis aujourd'hui, soit d'un projet, soit d'une question politique. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le juge a nécessairement des pouvoirs qui sont limités. La première des choses, c'est qu'il faut avoir accès au juge. Or, avoir accès au juge pour une association, pour un particulier, c'est compliqué, ça coûte de l'argent et c'est long. Regardez par exemple les déclarations de Paul François, cet agriculteur qui a été intoxiqué par un herbicide hier, qui déclarait dans Le Monde, il n'a même pas encore été indemnisé par Monsanto, mais il est déjà à 12 ans de procédure. Donc il faut voir aussi que saisir un juge, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on n'a que 2 ans pour agir. Or, une procédure telle qu'elle a été engagée aujourd'hui dans le tribunal administratif de Paris, au mieux, elle aboutit dans 5 ou 6 ans. C'est important, parce que le simple fait de déposer un recours pose une question et alerte les médias. Mais, encore une fois, n'attendons pas la décision du juge pour intervenir contre le changement climatique, parce que sinon, la température aura considérablement augmenté avant que la décision ne soit rédigée. Et puis, au-delà des conditions d'accès au juge, notamment la question du coût, qui est problématique aujourd'hui pour beaucoup d'associations, se pose aussi la question du risque de malentendu. C'est pas parce qu'on obtient la condamnation d'une entreprise que tout d'un coup, ces dirigeants, qui parfois même ont changé entre-temps, vont prendre les décisions qu'espéraient les plaignants. Ce n'est pas non plus contre le gouvernement qu'a été porté le recours de l'affaire du siècle. Il y a eu un malentendu. Il y a certaines personnes qui ont présenté ce recours comme un recours contre, voire même Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas. C'est l'État, en tant que fiction juridique, qui est aujourd'hui recherché en responsabilité. Et effectivement, le gouvernement d'aujourd'hui, regardez la réaction du ministre de l'Écologie, vous dira, et il a raison, que les gouvernements précédents, il n'en faisait pas partie. Et le gouvernement qui sera en place lorsque le juge rendra sa décision, ce n'est pas celui d'aujourd'hui non plus. Et il pourra aussi dire à raison, ce n'est pas moi qui étais là lorsqu'on a voulu faire le recours, ce n'est pas moi qu'on a voulu chercher en responsabilité. Et ils auront tous raison juridiquement. C'est l'État qui est cherché en responsabilité, ce qui n'est pas la même chose que de rechercher la responsabilité d'une personne, comme la presse parfois a bien voulu le présenter. Donc tout ça, voilà, si je dois conclure mon propos beaucoup trop long, je pense qu'effectivement il y a une urgence aujourd'hui à réfléchir à nos modes de décision, à la gouvernance, parce qu'on voit que certains acteurs de l'écologie font ce choix du juge et qu'encore une fois, je ne pense pas que ça soit une solution. Ils ont eu raison de le faire, mais ce n'est certainement pas la baguette magique aujourd'hui pour faire des choix publics intelligents en matière de changement climatique. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Loïc Blondiot. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1, spécialiste des questions de participation citoyenne. Ça fait plusieurs dizaines d'années que vous les observez. Alors déjà, quand même.
20 ans.
Bon, quand même.
2 dizaines d'années. C'est ouais, plusieurs, deux. Mais c'est 2.
Bon, 2 dizaines d'années, d'accord, ok. 2 dizaines d'années. Du coup, Arnaud Gossemont vous a interpellé à plusieurs reprises, donc vous voulez peut-être répondre déjà là-dessus. Et puis après, j'avais plusieurs questions. Déjà, on parle de ces nouvelles formes de citoyenneté écologique, mais est-ce qu'elles sont vraiment nouvelles? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà d'autres mécanismes? Alors moi, j'avais pensé aux groupes d'action municipaux dans les années 60-70, mais est-ce qu'on peut les comparer ou pas? Est-ce qu'il y avait d'autres formes qui existaient avant de mobilisation citoyenne? Le climat actuel, il est assez favorable aux enjeux de participation, même si on l'a fait mal, si on s'en sert un peu comme un alibi ou pas. Du coup, avoir un peu votre retour sur les évolutions que vous observiez dans les formes d'engagement citoyen. Et puis aussi votre avis sur les actions récentes, les marches sur le climat, les manifestations des jeunes, sur ce que ça disait selon vous de la participation citoyenne et de l'engagement citoyen.
Minutes, ça va pas être très simple, hein. Donc merci. Je vais essayer néanmoins de répondre. Alors, je partage beaucoup de ce qui a été dit par Arnaud Gossemont sur le grand débat. Moi aussi, j'ai été choqué par l'éviction de la Commission nationale du débat public. Moi aussi, j'ai été absolument choqué par le questionnaire fermé de la plateforme numérique qui introduisait des questions visiblement orientées et choqué aussi par le fait que la réponse du gouvernement s'appuie en partie sur ces questions fermées en négligeant tout le reste des contributions citoyennes. Donc il y a beaucoup à dire. Il y a simplement à constater néanmoins qu'il y a eu vraiment un débat qui n'a pas été aussi satisfaisant qu'on le souhaiterait lorsqu'on en est intéressé par la délibération citoyenne. C'est-à-dire que ça a été souvent la juxtaposition de prises de position individuelles et il n'y a pas eu cet exercice le plus souvent de discussion collective menant à une clarification des désaccords ou par chance à des accords. Mais il y a eu une diversité de formats. Il y a un trésor de données qui sont ouvertes, et ça c'est vraiment une nouveauté tout à fait précieuse et formidable. Alors pas seulement pour les chercheurs, c'est-à-dire que ces données ouvertes qui sont disponibles pour chacun vont faire l'objet d'interprétations, de lectures multiples, et on en saura plus très vraisemblablement d'ici quelques semaines, voire quelques mois, sur ce que sont les représentations que se font les Français de la société, et pour moi c'est quelque chose de très important. Le risque évidemment, c'est que la réponse politique ne soit pas à la hauteur ou qu'elle détourne finalement l'exercice en instrumentalisation politique. Là, ce serait un risque non seulement pour ce gouvernement, mais aussi pour l'idée même de démocratie participative. Et j'y reviendrai. C'est-à-dire que là, on tuerait purement et simplement l'espoir que dans ce type de démarche, on puisse rénover une démocratie représentative qui, tout le monde le constate, ne va pas très bien. Mais j'y reviendrai en le disant de manière différente. Alors, par rapport aux questions de Marion, est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles sous le soleil de la participation? Pas forcément. Il y a des éléments de nouveauté, j'y viendrai à la fin. Mais il est clair que cet impératif participatif dont qu'on a désigné comme tel avec Yves Saint-Omer il y a quelques années, cet impératif participatif, il naît à peu près en même temps que la prise de conscience de la question environnementale. Et il y a un parallèle tout à fait intéressant entre l'émergence de cette thématique de la participation à la fin des années 60, au début des années 70, et l'institutionnalisation des politiques participatives Et effectivement, ceux qui ont été à l'origine des principales avancées en matière juridique en France en ce qui concerne la participation, ce sont des ministres issus de l'écologie, que ce soit Corinne Lepage, Dominique Voynet. En fait, la plupart des textes importants dans ce domaine ont porté sur l'environnement. Hein. L'environnement est le domaine par excellence où cet impératif participatif se donne à voir, mais aussi le mouvement écologiste a beaucoup contribué à la consécration de ce thème. Et comme Arnaud Gossement, je suis très inquiet aujourd'hui du détricotage de ce droit de la participation en ce qui concerne notamment l'enquête publique, hein, qui est en train d'être complètement dévitalisée, même si ça n'était pas un instrument parfait de participation des citoyens, même si les enquêtes publiques venaient trop tard, le fait qu'aujourd'hui, au nom de la simplification, au nom de l'accélération des projets, au nom de l'efficacité, on démantèle ce droit de l'enquête publique me paraît tout à fait inquiétant. On ne peut pas dire qu'il faut que, au niveau ministériel, qu'il faut que la démocratie participative et la démocratie délibérative complètent la démocratie représentative et dans le même temps, finalement, remettre en cause le peu qui... Alors, effectivement, il y a beaucoup de textes, mais ces textes sont assez peu contraignants au final, hein, mais ils complexifient l'action publique, mais ils ne la contraignent pas tant que ça. Et j'ai une énorme inquiétude sur l'avenir de la Commission nationale du débat public. Je pense qu'il serait absolument dramatique que dans le processus actuel, dans le conflit qui a eu lieu entre la présidente de cette instance et le gouvernement, et dans le cadre de la réforme constitutionnelle, on supprime cette institution, cette autorité administrative indépendante, qui est une originalité française, mais qui a démontré, en ce qui concerne les grands projets, une efficacité une sorte d'impartialité démocratique qui me paraît extrêmement précieuse. Et j'alerte finalement tous ceux que cette question intéresse sur les menaces aujourd'hui qui pèsent sur cette institution. Alors, quels sont les enjeux liés à la participation aujourd'hui au regard de l'état critique de nos démocraties? Ces enjeux, ils sont considérables. La question se pose de savoir si les gouvernements de nos démocraties représentatives vont réussir, d'un certain point de vue, à se transformer, vont se révéler aussi résilients qu'ils l'ont été au cours de notre histoire. C'est-à-dire qu'ils ont progressivement intégré la critique, ils ont progressivement affaibli les adversaires finalement de ce modèle de gouvernement en se réformant. Hein, et depuis le début du XXe siècle, ils y sont parvenus à tel point que, au début des années 1990, on pensait que l'histoire était terminée, que la démocratie représentative n'avait plus d'alternative. Bon. Aujourd'hui, il y a un vrai risque, évidemment, de mort, hein, de la démocratie représentative et d'un retour qui commence à se dessiner de formes beaucoup plus autoritaires de gouvernement. Donc les enjeux liés à la participation sont considérables, liés à la démocratie participative sont absolument considérables. Et par rapport à ta question, Marion, oui, la culture de la participation, elle a beaucoup progressé, notamment au cours de ces dernières années, du fait même que la question démocratique a été posée par les citoyens. Les Gilets jaunes ont mis au cœur du débat politique cette question démocratique, en disant quelque chose de radicalement nouveau dans le débat, c'est de dire que la question sociale, c'est-à-dire la question de l'égalité, la question de la justice sociale, était liée à la question des institutions et de la démocratie. S'il y avait de plus en plus d'inégalités, s'il y avait de plus en plus d'injustices, c'était aussi parce que les institutions de la démocratie représentative facilitaient finalement des décisions qui allaient dans ce sens. Et on a articulé question sociale et question démocratique, et on a articulé question écologique et question démocratique. Il me semble qu'on a fait cette jonction de manière très claire. Si aujourd'hui les politiques de transition écologique n'avancent pas, c'est aussi lié au mode de fonctionnement de nos institutions, à la manière dont elles fonctionnent. Donc, j'y reviendrai. Le grand débat a été un exercice de réponse. Certains diront à chercher finalement à étouffer cette contestation. Hein. Ça a été une réponse politique qui jusqu'à présent apparaît relativement efficace, qui a consisté à substituer une forme de démocratie relativement pacifiée, hein, relativement bordée, à une démocratie qui était beaucoup plus expressive et beaucoup plus contestataire. Et il semblerait pour les gouvernements, que ce soit une option aujourd'hui. Il y a effectivement une forme de discours que l'on retrouve au sein de nos cénacles politiques qui consiste à dire oui et pourquoi pas adjoindre un peu de démocratie participative à la démocratie représentative. Mais moi, je serais relativement pessimiste sur ce discours, même si ce discours produira peut-être des effets institutionnels. Je pense que la démocratie que voulaient les Gilets jaunes, que souhaite une partie des citoyens, et que souhaite en particulier une partie des citoyens les plus jeunes, n'a rien à voir avec la démocratie participative que souhaitent leur concéder les gouvernements. C'est-à-dire, ça ne pourra pas se faire sous forme de plateforme numérique, de consultation, où on orientera les questions telles que cela a été fait dans le grand débat. Ça ne pourra pas se faire sous forme d'exercice très planifié, très verrouillé de participation avec des publics, certes tirés au sort, mais qui seront mis en condition. Il faudra vraiment que les concessions soient beaucoup plus fortes et que finalement, j'allais dire, non pas le partage de la décision, mais la démocratie délibérative au sens fort du terme, c'est-à-dire l'inclusion de tous ceux qui sont affectés par la décision, dans le processus de construction de la décision, il faut que ça devienne une réalité. Et puis, de toute façon, on ne doit pas non plus trop espérer de ces formes de démocratie institutionnalisées. Parce que ce qui caractérise la période actuelle aujourd'hui, c'est une demande de participation beaucoup plus directe. C'est ce que j'appelle la démocratie du faire. En fait, les conseils de quartier, les débats publics, finalement, ne mobilisent que très peu de citoyens. Hein. On parle dans les milieux de la participation du 1% participatif. Mais toutes les expériences de coopération, toutes les mobilisations aujourd'hui qui consistent à agir vraiment, à construire ensemble un monde commun, à développer des formes de vie démocratique en dehors des institutions. Ça, c'est ce qui caractérise les mobilisations actuellement, cette démocratie de l'agir, hein, de l'agir ici et maintenant, c'est aussi la démocratie participative et c'est aussi l'avenir de nos démocraties. Il va falloir aujourd'hui qu'on trouve des articulations entre nos institutions qui sont de plus en plus ossifiées et ces multiples mobilisations qui aujourd'hui ne s'adressent pas à elles finalement, mais construisent un monde différent dans les interstices du marché et de l'État actuellement. Les ZAD étant le prototype hein, ces formes de vie démocratique émergentes. Dernier point, sur les mobilisations récentes. Qu'en dire ? Et en particulier sur les mobilisations de jeunes. De toute façon, la cause écologique devra être portée par les citoyens. C'est-à-dire que s'il doit y avoir un changement, il passera par de très fortes mobilisations citoyennes. On ne peut pas espérer que des institutions qui jusqu'à présent ont privilégié structurellement les intérêts de l'économie sur les intérêts de l'environnement, parce que les arbres ne votent pas, parce que les générations futures finalement sont bien en peine de financer les campagnes électorales, il faudra qu'il y ait une mobilisation extrêmement forte pour que les gouvernements bougent. Hein, et ça me paraît absolument impératif. Les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui ne prendront pas en charge jamais la question écologique à la hauteur de ce qui serait nécessaire aujourd'hui pour éviter le pire. Donc il va falloir des mobilisations massives de la part des citoyens. Ces mobilisations, elles ont commencé, et ce sont en particulier les jeunes. Et ça, c'est une divine surprise pour ceux qui pensaient, qui croyaient que les jeunes s'étaient réfugiés dans une sorte d'apathie structurelle ou de volonté de consommer, de participer à cette société de consommation sans s'intéresser à le moins du monde, à l'avenir de la planète. Ce qui est fabuleux, c'est que les fameuses générations futures sur lesquelles on glose depuis des années, elles sont là. C'est-à-dire qu'elles s'expriment là, hein, vraiment. Et je pense que là, il y a un changement extrêmement fort, hein, de la situation politique, de la définition politique. Entre les recours juridiques dont il a été question, qui me paraissent le recours au droit, hein, tel qu'il a été présenté à l'échelle mondiale, et cette mobilisation de la jeunesse, on a peut-être le début d'un rapport de force qui pourra changer les choses. Mais qui est très paradoxal, parce qu'en même temps, on voit qu'il n'y avait pas de jeunes dans le grand débat. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les instances de participation qui sont mises en place par les élus sont désertées par les jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats, des actions beaucoup plus tangibles, beaucoup plus efficaces. Il y a un pragmatisme politique qui est extrêmement fort. Mais il y a une très grande politisation. Et ce que j'espère, au regard d'un certain nombre de scrutins récents, regardez ce qui s'est joué sur le Brexit. Hein, très clairement, les jeunes n'ont pas voulu du Brexit, ont une conscience, me semble-t-il, aujourd'hui, de l'intérêt général. Ma collègue Joëlle Zask dit qu'aujourd'hui, les jeunes sont les vrais responsables. Hein, ce sont eux qui développent aujourd'hui un point de vue rationnel sur l'évolution du monde. Il me semble que la bonne nouvelle, c'est que progressivement, l'état de l'opinion et le rapport de force politique va changer. Mais la question, c'est cela se fera-t-il, et ça, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, à très juste titre, est-ce que nous avons le temps, hein? Est-ce que nous avons le temps du droit? Est-ce que nous avons le temps de l'éducation? Est-ce que finalement, ce changement de perception et ce changement d'attitude politique se fera sur une durée suffisamment courte pour éviter le pire. Je vais terminer par mentionner deux initiatives qui ne sont pas de même nature, mais qui viennent compléter ce qui a été dit par mes collègues et par moi-même au cours de cette table. La première initiative, c'est celle que mène aujourd'hui mon amie Cécile Renoir autour du campus de la transition. Elle a mis en place dans la région parisienne, c'est une sœur, hein, c'est une sœur de l'Assomption, et son ordre possède une sorte de château absolument magnifique en Seine-et-Marne, où vont se dérouler, où ont commencé à se dérouler des formations à destination des étudiants de grandes écoles d'ingénieurs ou commerciales, qui effectivement ont un besoin de compréhension, un besoin de sens, et alors même qu'ils le disent, hein, je suis intervenu la semaine dernière sur ce campus de la transition, je vous invite à aller vous renseigner sur cette initiative que je trouve extrêmement intéressante, alors même qu'ils n'ont à aucun moment de leur formation croisé ces questions, et ils viennent se former. La plupart prennent une sorte de temps personnel pour le faire, et ça me paraît une initiative extrêmement précieuse dont je souhaiterais qu'elle aille beaucoup plus loin, parce que changer les perceptions des élites, et en particulier, il est à mon avis déjà trop tard pour celles qui sont déjà en place, mais pour celles qui vont arriver, je pense que c'est absolument nécessaire. Et puis la deuxième annonce, elle est beaucoup plus personnelle. On fait un colloque avec quelques collègues, dont Dominique Bourg, à Cerisy, du 13 au 17 mai, sur démocratie et écologie, sur la pensée indisciplinée de la démocratie écologique. Et si vous avez envie de travailler sur ces questions, allez sur le site de Cerisy et vous verrez, le programme est absolument fabuleux. Voilà, merci.
Alors, très bien, merci beaucoup. On a 5 minutes pour prendre 2 questions, désolée. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Et si oui, on va vous demander de les poser très rapidement. Voilà, alors, oui, il y avait une question.
Merci beaucoup. Je suis Katharina Tsuge, je travaille ici à l'OCDE sur les questions de démocratie participative et gouvernement vert. Et j'ai une question pour M. Loïc. Vous avez évoqué qu'il faudrait plus de concessions en termes de démocratie délibérative. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous voyez ça? C'est par l'instauration d'une assemblée permanente des citoyens tirés au sort. Et aussi, vous avez évoqué qu'il faut plus de liens ou des articulations entre les institutions et toute forme de démocratie qui s'est faite en dehors de ces institutions, comme des associations, des coopératives. Comment concrètement pourrait ça s'articuler? Merci.
Merci. On va prendre une deuxième question. Oui, ben on va en prendre trois. Donc, monsieur et monsieur.
Bonjour, je représente des associations qui s'occupent des migrants et de la solidarité en général. Je ne suis pas du tout spécialiste en droit, mais je voulais poser une question à M. Gossman. Il existe en droit pénal, je crois, le principe de comparution immédiate, où on ne perd pas de temps entre les faits qui sont décrits et la condamnation. Pourquoi ça n'existe pas pour le droit administratif?
Bonjour, Michel Delmotte, en génie thermique au CNRS. J'ai été sidéré en bien par la position des trois derniers intervenants, surtout M. Gossman. Je vais poser une question qui est complètement un peu au ras des pâquerettes et idiote par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'elle sera fermée. Est-ce que vous pensez, au niveau des gens qui demandent la formation actuellement, donc les étudiants, est-ce qu'il vaudrait mieux une formation qui leur dise pourquoi le problème de consommer du carbone fait une catastrophe écologique, donc quelque chose d'un peu scientifique, ou pourquoi actuellement, c'est aussi une question qui a un support scientifique, pourquoi actuellement, avec le débordement de tous les modes électroniques et tout ce qu'on voudra de communication, on a tellement de difficultés à faire ressortir une participation effective? Pour dire un peu les choses de ce côté-là, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai entendu de Bruno Lenoir, Latour, à l'occasion du grand débat, je ne sais pas s'il vient de lui, mais j'aimerais bien que la deuxième question, qui je suis un peu long là, c'est cette observation, des muets parlent à des sourds. Donc deux questions, est-ce que c'est du dur que vous voulez, ou est-ce que c'est du mou du côté de la communication. J'aime pas opposer dur et mou d'ailleurs. Hein. Bon.
Non, j'ai pas vraiment compris la seconde, même si je vois très bien ce à quoi fait référence. Alors moi, je fais partie des sciences molles, hein, des sciences dominées, donc je déteste aussi cette opposition. Mais alors. Pour l'instrumentation finalement de cet idéal de démocratie délibérative, oui, on manque pas d'instruments. Alors aucun d'entre eux ne peut finalement complètement résoudre, et c'est une évidence, la crise de confiance et cette nécessité d'association des citoyens. Par exemple, vous avez cité le tirage au sort. J'ai fait partie d'un groupe de travail qui a promu et qui continue à promouvoir l'idée d'une chambre du long terme qui serait tirée au sort et qui serait adossée aux institutions de la démocratie représentative pour rappeler les assemblées classiques à l'impératif environnemental et du long terme. Donc je crois beaucoup au développement finalement de ces dispositifs d'assemblées ou de jurys citoyens tirés au sort. J'ai aussi participé à un groupe de travail de la Fondation Terra Nova pour instaurer un vrai référendum d'initiative citoyenne, pas le RIC que demandent les Gilets jaunes, mais vraiment un moyen pour un groupe de citoyens relativement important d'inscrire une question à l'agenda et de provoquer un référendum. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de condescendance pour le modèle suisse de démocratie. On pense qu'on ne pourra jamais le mettre en place ou que c'est beaucoup trop dangereux. Mais je pense que c'est vraiment un moyen de réarticuler la société, les citoyens avec le pouvoir politique. Moi, je pense aussi, et je suis d'accord, et je ne l'ai pas mentionné, mais un de mes soucis aujourd'hui, c'est de voir disparaître les intermédiaires, de voir disparaître les corps intermédiaires. C'est-à-dire que, en fait, les pouvoirs exécutifs qui sont les nôtres, et en particulier en France, aujourd'hui, court-circuitent de manière tellement systématique ces corps intermédiaires, et surtout les affaiblissent, hein, et notamment, évidemment, l'argent, la subvention est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en France, où les associations n'étaient pas subventionnées par des fondations, comme elles peuvent l'être dans d'autres pays, mais dépendaient beaucoup des ressources publiques, le fait de les mettre en concurrence, de les contraindre à répondre à des appels à projets, ou d'assécher leur financement, eh ben, les affaiblit très fortement. Donc vous avez un refus de dialogue avec les corps intermédiaires, une sorte de mépris très technocratique à l'égard de ces corps intermédiaires, et en plus un affaiblissement structurel. Ça vaut aussi pour la recherche publique. Hein, donc on est dans cette situation-là. Donc il ne reste plus... Qu'est-ce qui reste? Il reste une technostructure, hein, ce que j'appelle l'épistocratie, c'est-à-dire en fait une élite gouvernante administrative très, très, très intriquée avec un certain nombre d'acteurs économiques, hein, une élite très, avec des frontières très poreuses entre la haute administration, les milieux dirigeants de l'économie et le pouvoir politique, et les citoyens. Et entre les deux, il n'y a plus rien. Et c'est réintroduire finalement à la fois des espaces de discussion via la démocratie délibérative et des intermédiaires qui me paraît absolument indispensable. Parce que sinon on va au clash. On va soit à une forme d'autoritarisme, et c'est ce qui nous, évidemment, risque de nous arriver très vite. C'est-à-dire que ce pouvoir va être obligé pour survivre et pour résister à la contestation, il va être obligé d'être de plus en plus autoritaire. Puis on a des citoyens qui réclament aujourd'hui de plus en plus des formules politiques autoritaires. Donc cette disparition des corps intermédiaires est pour moi la plus grosse inquiétude, et ça vaut aussi pour les partis politiques. Dernier point, sur l'articulation de la démocratie représentative et de ce que j'appelle la démocratie du faire, hein, ou la démocratie de l'agir citoyen, c'est pas du tout simple, mais encore faut-il que l'État... ne se pose pas en situation de conflit. Hein. Pourquoi c'est pas simple? Parce que la plupart de ces initiatives refusent finalement d'entrer en relation avec la démocratie représentative. Hein, ont perdu toute confiance dans les institutions. Et donc, à travers cette stratégie interstitielle, en essayant finalement de faire sans les institutions. On pourrait même dire qu'elles anticipent finalement l'effondrement très probable, hein, de nos institutions et de nos systèmes capitalistes. Donc elles anticipent ça. Elles développent des formes de vie indépendamment des institutions. Elles ne souhaitent pas être récupérées par les institutions. Et donc, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que c'est leur fondement même que de ne pas vouloir être institutionnalisées. Hein, donc, ça, c'est un point. Mais en même temps, il me semble que le soutien à ces initiatives, ou en tout cas la bienveillance des institutions, elle est requise pour que ces initiatives ne soient pas... je prends un exemple qui va peut-être choquer certains d'entre vous, mais la manière dont on a traité la manière dont l'État a refusé de s'adapter au type de projet collectif qui était développé par un certain nombre d'activistes, et la démonstration qu'on ne souhaite pas que ces alternatives puissent exister. Et je suis désolé, je suis vraiment trop trop long. Moi. Pire qu'un avocat, d'ailleurs.
À la différence, c'est que pour un avocat, on n'a pas le droit d'interrompre un avocat. Le juge n'a pas le droit d'interrompre un avocat. Et sur la question sur le droit pénal, vous savez, les avocats n'aiment pas trop les procédures de comparution immédiate parce que malgré tout, expédier la vie d'un homme en quelques minutes sans avoir vraiment droit à un avocat qui potasse le dossier quelques minutes avant, bon, c'est pas terrible. Mais par contre, votre question est une vraie question au sens où la plupart des infractions environnementales en France, on donne le chiffre de 96% certaines années, ne font l'objet d'aucune poursuite. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens, les forces de l'ordre ne sont pas outillées ni même formées pour cela. Et quant au juge, le procès environnemental est beaucoup plus complexe que le procès pénal classique, parce qu'il y a un problème de preuve, il y a un problème de compréhension de problèmes scientifiques et techniques qui sont souvent complexes. Ça suppose des moyens d'avoir une justice pénale environnementale. Nous ne les avons pas, c'est pour ça que le procès de l'Erika a duré 14 ans. c'est-à-dire beaucoup trop. Et le côté exemplaire de la sanction est totalement effacé de ce fait-là. Un tout dernier point sur la question de madame, même si elle ne m'était pas posée. Je rappelle toujours les conclusions du groupe 6 du Grenelle de l'environnement. À l'époque, j'étais encore une fois porte-parole d'une ONG. Je trouve qu'on n'a rien écrit de mieux depuis sur la revendication des ONG. Elle s'était exprimée de manière exemplaire dans ce groupe de travail piloté par Nicole Nota, ex-syndicaliste, et Michel Prieur, professeur de droit. Et elles avaient rappelé qu'à l'image du dialogue social que nous avons en droit du travail, il nous faut un dialogue environnemental, qu'en France, l'État ne veut pas mettre en place. Ce dialogue environnemental, ça suppose notamment de structurer des corps intermédiaires, comme l'État l'a fait dans les années 60 pour les syndicats d'employés et de salariés, et d'avoir effectivement des règles sur le financement, l'agrément, la représentativité de ces corps intermédiaires environnementaux. Et aujourd'hui, effectivement, l'État se satisfait très bien d'avoir juste quelques corps contestataires qui ont les médias comme moyen d'action, mais limite leur participation au vrai processus de décision publique. Et c'est écrit noir sur blanc dans ce compte-rendu du groupe 6 auquel je renvoie toujours, même si vous le connaissez certainement.
Sur la question des attentes d'un point de vue, des étudiants sur quel contenu devrait être enseigné, nous, notre positionnement, c'est plus déjà qu'il est évident qu'il devrait avoir un ensemble de faits scientifiques qui devraient être partagés par tous les étudiants, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt enseigné, réservé aux écoles d'ingénieurs quand ces sujets sont abordés. Mais au-delà de ça, ces constats, ils peuvent créer de la part des étudiants souvent un sentiment d'impuissance si derrière on ne leur donne pas les outils et la compréhension pour pouvoir adapter ces faits-là à leur domaine, donc leur secteur et le métier. Donc ça nous semble aussi important de fournir des connaissances qui soient opérationnelles et qui du coup permettent aux étudiants de prendre des engagements qui ne soient pas juste dans leur manière de consommer, mais également dans leur vie en tant qu'actifs.
Just maybe one sentence about why this is taking.
Très rapidement, en ce qui concerne le fait que cela prend si longtemps, nous essayons de prendre des décisions en utilisant l'ancien système judiciaire, mais le changement climatique est tel que nous n'avons pas le temps, c'est urgent, on ne peut pas attendre 10 ans, et il n'y a aucun système juridique qui sait comment affronter cette difficulté. On essaye d'utiliser des instruments existants et le système est bloqué. Cela prend du temps avant de prendre une décision pour savoir si telle ou telle personne est directement impactée par les changements climatiques et donc pourrait à ce moment-là poursuivre.
Vous aviez un mot à dire ?
Oui, merci beaucoup.